Merci au Seigneur qui nous a libérés, qui nous pardonne, j'allais dire, à gogo, sans fin et sans fin. Mais il nous a déjà extirpés vraiment de cette Égypte, comme disait Jordan avant. Et moi, j'ai vraiment juste envie qu'on applaudisse le Seigneur. Il est tellement bon pour ce qu'il a fait pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Une bonté sans fin. Il ne s'est pas donné en imaginant comment on allait devenir peut-être bien, mais il a donné sa vie en nous voyant dans le pire épisode de notre vie. Génial. Ce matin, on va poursuivre de mettre un peu les fondements de ce qu'on a envie de vivre. Ici, dans l'Église, on a pu parler au tout début de la vision, et ensuite, on a pu dire, mais comment est-ce qu'on voulait aller dans cette vision? On a parlé de la mission qu'on avait, et depuis, on a commencé cette série sur les différentes valeurs qui nous sont chères, sur la façon dont on veut vivre les choses. Et il y a un mois, Diane, ma femme, a parlé de cette valeur essentielle, c'est de mettre le focus en premier sur Dieu, sur la relation avec Dieu et aussi sur les relations entre nous. On a vraiment envie, avant toute chose, c'est la relation avec Dieu et les relations entre nous. Et puis ensuite, il y a deux semaines, Shelley nous a parlé vraiment de cette valeur de l'authenticité, qui est vraiment quelque chose de puissant aussi. Et j'aimerais dire que ce qu'on parle là, ce n'est pas juste des messages qu'on entend une fois, mais c'est vraiment une culture, c'est vraiment quelque chose dans lequel on veut grandir, bâtir et aller encore plus loin. On est au début de ça, mais on désire avoir ce focus sur Dieu, on désire être authentique et on désire vraiment poursuivre là-dedans. Et ce matin, la valeur que j'aimerais vous partager, c'est l'audace. L'audace, c'est vraiment aussi quelque chose qui nous tient à cœur, et oser avancer dans ce qui nous tient à cœur, dans ce que Dieu nous demande, vraiment dans la liberté, dans la joie. Et l'audace, c'est une disposition d'oser malgré l'incertitude. Malgré les obstacles, les défis, même quand c'est dur, on ose aller de l'avant. Et si cette valeur nous tient tellement à cœur, c'est parce que la vie avec Dieu, en tout cas la mienne, mais je pense la vôtre aussi, la vie de tous les jours, il y a souvent des obstacles, des défis. Il y a souvent aussi des incertitudes, on ne sait pas toujours tout à l'avance, les 30 prochaines années. Et puis ça ne se passe pas toujours idéalement comme on imagine. Et malgré ça, être audacieux, c'est quand même avancer dans ce qui vibre dans nos cœurs, malgré toutes ces choses. Et être audacieux, c'est oser. Oser se lancer dans la course, c'est oser tout en maîtrisant pas la fin. C'est oser tout en maîtrisant pas la fin. C'est s'élancer de ses starting blocks, se lancer dans la course alors que tu ne sais pas si tu vas gagner ou si tu vas perdre après. Et il est plus facile de s'échauffer un peu avant une course, de faire des étirements. Il est plus facile de parler avec les autres de la course qui vient, ou bien de regarder même des vidéos du parcours de la course, et puis d'analyser, ça monte, c'est pas mal cette fois la course, c'est bien. Ou bien de parler de la course des autres, de dire, ah ben celui-là il court bien, puis t'as vu sa foulée de celui-ci, etc. On peut même admirer les autres coureurs, puis ouais, finalement c'est quand même pas mal, hein, ici sur la barrière, à regarder les gens qui courent, et puis se dire, ah celui-là, il est, ah bravo, puis celui-là il court bien, et puis on admire les ministères, on admire les coureurs, vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, moi, je suis convaincu que le but de Dieu, c'est qu'on soit tous dans la course. C'est qu'on soit tous dans la course. D'ailleurs, Paul, il y va pas par quatre chemins. Philippiens 3, verset 14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et puis, il poursuit, après, il dit « Frères et sœurs, imitez-moi tous. » Il désire que, comme lui, on soit tous dans la course, qu'on court tous. Et je crois que Dieu, il n'a pas prévu des acteurs et des spectateurs, des coureurs, des spectateurs, mais il a un plan pour tous, pour chacun d'entre nous. Et comme Paul, qu'on puisse l'imiter et qu'on puisse s'élancer aussi dans cette course. Et la course de Dieu, ce n'est pas une sorte de Champions League pour les pros, et puis nous, on regarde. Mais c'est une course populaire, une course pour chacun. C'est lui qui a inventé peut-être le BCN Tour avant l'heure. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un sponsor. Mais... mais bien sûr, les rôles de chacun sont différents dans cette course. Les dons de chacun, mais chacun est important. Et si chacun se lance et ose vibrer dans ce qu'il a à cœur, ben le corps va bouger et puis le corps va avoir un impact. D'ailleurs, la Bible, elle parle de l'Église comme d'un corps. Chacun est un membre différent. Ça nous parle, je pense, à tous, parce que c'est une image qui nous parle. On a tous un corps ici, un corps physique. Enfin, j'espère, si tu pinces ton voisin, je pense que tu vas réaliser qu'il a un corps physique. On a tous un corps, sauf les anges peut-être qui sont là. Bonjour, ils nous écoutent, ils nous regardent. Quand tout va bien, on ne remarque pas trop toutes les parties de notre corps, les organes. C'est quand tout à coup, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on réalise les organes qu'on a. C'est aussi seulement quand tu tapes à la table de nuit avec le petit orteil que tu réalises que tu en as un. C'est peut-être pas un chant d'ange qui sort à ce moment-là. Mais c'est d'autres, c'est pas des anges, c'est des petits oiseaux, ou des longs oiseaux peut-être qui s'en vont, je ne sais pas. Mais il suffit d'un petit membre qui a mal et puis on a déjà de la peine à marcher. Il suffit qu'il nous manque un orteil et c'est différent. C'est difficile. Ou rien qu'avec un pouce, imaginez s'il vous manque un pouce, comme c'est difficile d'ouvrir ou de décapsuler une bouteille, ça ne va pas être simple, suivant la cave de qui. Donc Dieu désire que notre corps entier soit en mouvement. Et pas qu'on est tous appelés à faire la même chose, mais en fonction de ce pourquoi on a été conçu. Et moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui vibre dans nos cœurs ici pour l'Église. Passion, c'est que chacun puisse se lever dans ce à quoi il est appelé. Et c'est chacun peut-être un rôle différent. Mais qu'ensemble, on forme une famille, un corps qui a un impact pour transmettre la vie. Et c'est pour ça qu'une des valeurs qui nous tient à cœur, c'est justement l'audace. Parce que c'est ce petit plus qui nous fait quitter les starting blocks et puis aller de l'avant. Puis pas juste toujours hésiter, puis finalement on ne le fait pas. Et ce matin, s'il n'y avait qu'un mot à retenir de tout le message, j'espère que tu en retiendras deux ou trois, je ne sais pas, mais s'il n'y en avait qu'un, c'est ose. Ose. Ose aller de l'avant. Ose prendre des risques. Ose, quitte à te tromper. Ose aller de l'avant même quand tout n'est pas sûr pour la suite. Vous savez, on obtiendra toujours le même résultat si on ne change pas quelque chose dans notre manière de faire. Si tu ne changes pas la recette et puis que c'était trop salé, ben ça sera toujours trop salé, sauf si tu changes quelque chose. Et dans notre vie, des fois, on désire vivre des choses, mais si on ne change pas peut-être dans notre façon de faire ou d'être, ou si on n'ose pas plus, ben, il n'y aura pas plus de victoire ou d'exploit peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de plus. Alors, il faut que je change quelque chose, que j'ose, que je fasse plus confiance à Dieu pour aller de l'avant. Et vraiment, de choisir la foi plutôt que le doute. Choisir la foi plutôt que le doute. Et pour prendre un petit témoignage, pendant plusieurs mois, on s'est retrouvé un groupe à prier pour ce projet d'église dans une petite salle à Saint-Blaise. On était 20, 30. Et puis, on se retrouvait, on a vraiment intercédé, vécu vraiment des moments forts. Il y avait on mettait des YouTube pour la louange, il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait rien. Et puis, il n'y avait pas besoin de micro non plus. On est 20, 30, il n'y a pas besoin de micro. Il suffit de parler comme ça, même si à la fin, on était des fois 40, même plus. Il fallait, j'ai pas la voix du siècle, donc il fallait vraiment des fois parler fort. Et puis, ben, il y avait juste Dylan qui est venu, il a joué deux fois de la guitare vers la fin, c'est tout. On était, voilà, ce qu'il y avait. Mais avec toute l'équipe, on a prié, puis on a vraiment ressenti, ben, c'était juste qu'on recommence des cultes après l'été passé. Et puis, donc, on est allé de l'avant, on a trouvé cette salle, etc. Et moi, je suis convaincu que Dieu a de grands projets, on est qu'au début de quelque chose. Et puis, on a décidé de se lancer malgré plein d'inconnus. Alors, il y en a encore, mais il y en avait beaucoup plus. On a trouvé cette salle, mais après on s'est dit, mais dans une salle comme ça, on est obligé d'avoir une sonore, on ne peut pas juste parler ici, voilà, même les lampes. Et puis, moi j'ai une connaissance du monde chrétien depuis des années que je connais, qui allait des fois dans les églises. Et puis je l'ai contacté, il est dans une entreprise à Lausanne, une grande boîte, vraiment professionnelle, c'est eux qui mixent le Paléo Festival, donc ils connaissent un peu ce qu'ils font. Et puis alors il m'a dit, mais pas seulement, puis on discutera, ouais, je viens te donner un coup de main. Mais lui, il habite maintenant tout ailleurs, donc c'est pas lui qui allait nous aider ici tous les dimanches. Et puis alors je vais une fois dans sa boîte, puis il me présente les stocks, le matériel, alors des piles et des piles de plein de choses. Et puis après il m'amène autour d'une grande table, et puis ben, il appelle le responsable des ventes, et puis on se met autour d'une grande table, les trois. Puis il prend un bloc-notes, puis il dit, bon, ben alors... on vous écoute, c'est quoi votre projet là? Vous avez un groupe de musique? Qu'est-ce que vous avez comme budget? C'est quoi que vous avez envie de faire? Puis moi j'arrivais, mais on n'a rien. On a un guitariste qui est venu deux fois. On n'a pas de musicien, on n'a même personne qui sait utiliser une sonore. Et puis voilà. Donc je me suis senti tellement démuni, sorti de ma zone de confort, sans groupe, sans argent. Et puis pour couronner le tout, après, il y a le directeur d'entreprise qui est venu, qui a dit « Ah, alors c'est quoi votre projet ?» Puis moi j'étais là, mais on a juste un musicien, mais ça va venir, le groupe va s'étoffer, on n'a pas envie d'acheter quelque chose pour changer dans 6 mois quand ça aura grandi, on veut directement acheter quelque chose, on ne doit pas changer tous les 2 ans, et puis voilà, et puis on a parlé comme ça. Mais je veux être authentique, j'étais pas là, ouais, il n'y a pas de soucis, tranquille. Je me suis dit, waouh, j'avais vraiment l'impression de voler dans le vide, et puis en espérant que ça tienne, hein, le vent. Pourtant, même si j'étais un peu gêné, j'avais quand même cette certitude que si Dieu nous avait appelés à commencer ce projet, il allait aussi subvenir et agir. Et j'étais convaincu quand même de ça, même si à un moment donné, on a beau être convaincu que ça va tenir, il faut quand même s'élancer si on veut voler le petit aigle, il doit quand même se dire que ça va tenir à un moment donné. Il fallait quand même, il fallait oser. Il fallait aller devant ces gars qui font le palais haut, se lancer, croire que le reste allait suivre, marcher dans l'inconnu. Et puis ils m'ont fait une offre qui restait un moment sur le bureau. Quand j'ai été réanimé après avoir vu le chiffre, ben, j'ai pu continuer de... Après que le comité associatif, ben, on a regardé pour des alternatives, à Emmaüs, Mais Dieu a pourvu par des dons extraordinaires qui sont arrivés, des musiciens aussi, on est tellement contents de ces trois musiciens-là. Je propose même qu'on les applaudisse, c'était tellement génial. C'est un cadeau, en tout cas, c'est vraiment génial de vivre cette aventure ensemble. Et puis ensuite, on arrivait vers l'été, on allait partir en vacances, on n'avait toujours pas de sonoriste. Il fallait commander la sono, sinon on ne l'aurait pas, mais moi je ne voulais pas la commander sans quelqu'un, un sonoriste qui connaisse un peu et aussi sans moi dire. Et puis finalement, on a eu Samuel qui est venu, c'était un vrai miracle, c'est un message en soi. Et maintenant, il y a déjà l'équipe qui va s'étoffer, il y a encore pas mal de besoins. Mais l'audace, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant quand rien n'est sûr. Quand rien n'est sûr. C'est oser se lancer quand tu n'es pas sûr de la suite et de ce qui va se passer. Et moi, honnêtement, plus jeune ou enfant, je n'ai jamais été le plus téméraire des enfants à faire des acrobaties. Il suffisait de me voir à la gym quand il y avait les agrès. C'est pas là que j'étais le plus content, le plus à l'aise. Je ne suis pas le plus casse-cou qui ose faire des sauts à l'élastique, sauts en parachute. Je n'ai pas déjà commandé mon billet pour aller à la planète Mars. J'attends qu'il fasse des billets de retour avant. Et pourtant, même si Dieu respecte nos tempéraments, c'est en osant qu'on va faire bouger les choses. C'est en osant qu'on va faire bouger les choses. Et moi, j'ai un rêve, c'est de voir la présence de Dieu se manifester, d'être tellement présente, que les gens vont réaliser que ce n'est pas une théorie, mais que Dieu est vivant, qu'il parle, qu'il agit, qu'il touche, qu'il guérit intérieurement, qu'il guérit physiquement, et puis qu'il restaure les vies, puis qu'il sache que ce n'est pas une théorie, mais que c'est une réalité. Et pour ça, à un moment donné, il faut mettre des choses en place. Il faut oser, il faut se lancer, sinon ça restera toujours dans une petite boîte dans notre cœur. Il faut quitter les starting blocks. D'ailleurs, un proverbe sénégalais dit « Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. » Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. À un moment donné, il faut y aller, il faut oser. S'il y a quelque chose qui vibre dans notre cœur, s'il n'y a pas ce petit plus, cette audace, ben, ça ne va jamais s'accomplir. Mais il y a différents obstacles à cette audace. Et on va s'y pencher un petit peu ce matin. Finalement, c'est quoi qui nous empêche de nous lancer? C'est quoi qui nous empêche d'être audacieux et d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui empêche ce petit aigle, depuis le haut du rocher, de s'élancer pour la première fois hors du nid? Ben, c'est de se dire, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais voler? Qu'est-ce qui empêche l'athlète de s'élancer de ses starting blocks? Ben, c'est peut-être la peur de perdre. Qu'est-ce qui empêche de commencer tel projet ou de prier pour un malade? Ben, c'est de se dire, mais et puis si ça foire? Et pourtant, les idées, les intentions, on les a. C'est comme celui qui est devant une recette de cuisine, par exemple pour un dessert. Il a beau avoir tous les ingrédients qui sont déjà sortis sur la table. S'il a peur de rater son gâteau, d'oublier un élément, ou bien de laisser trop longtemps dans le four, ou bien que ça ne rentre pas comme l'image qu'il y a sur Internet ou le livre de recettes, ben il ne va jamais rien faire. Il ne fera rien. Après, les desserts, ça ne correspond pas toujours à ce qu'on voit comme image, si on peut afficher ça. Entre ce que vous voyez dans le livre de recettes ou sur Internet, et puis quand vous essayez, vous, il y a toujours une petite marge. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. Heureusement, je n'ai pas osé mettre mes images à moi. Je n'ai pas assez de choix assis, porteur de pendant. Mais à un moment donné, il faut oser essayer, il faut oser tester. En fait, il faut oser commencer petit. Et ce verset qui me parle depuis le début qu'on a lancé ce projet de Zacharie 4:10, c'est ne méprisez pas les petits commencements. Ne méprisez pas les petits commencements. Et finalement, ne pas oser se lancer dans une recette, c'est pas vouloir faire quelque chose parce qu'on aimerait que ça soit tout de suite parfait. Et je crois qu'avec la vie avec Dieu, c'est pas le meilleur pâtissier, cette émission, où il y aurait Dieu le Père, Mère Cotte et Saint Cyril qui sont là en train d'analyser nos desserts. Non, c'est pas ça. Mais c'est plutôt être dans la cuisine avec papa, qui est là, et qui nous entoure, nous son enfant, et qui fait avec nous. Il fait avec nous. Puis il nous aide. C'est pas grave si c'est pas réussi du premier coup. Et je crois que ça fait partie des meilleurs souvenirs d'enfance, faire des gâteaux. Moi, j'ai beaucoup fait de gâteaux. Google of Marbré, par exemple. Enfin, j'ai surtout léché la spatule et le pot. Mais est-ce que j'avais de la pression quand on faisait ces gâteaux? Non, j'avais pas de pression. Aucune pression que ça réussisse ou que ça rate. Je profitais juste de manger de la pâte. Mais finalement, je crois que le premier gâteau que j'ai fait de ma vie, c'était quand même un de ces boulots marbrés qui ressemblait quand même plus ou moins. Bon, après, quand il reste collé dans le moule, c'est autre chose. Mais il faut oser commencer petit, il faut oser faire quelque chose, au risque que ça ne soit pas parfait. Et je crois qu'un des premiers obstacles qui nous empêche d'être audacieux et d'oser, c'est le perfectionnisme. C'est le perfectionnisme. C'est de tout vouloir faire parfaitement. Et le perfectionnisme, finalement, si on regarde, c'est un manque d'humilité. C'est pas admettre que le cake soit un petit peu biscornu. Ou bien que tes croissants au jambon, ça ressemble plus à des lunes, à quelque chose de lunaire. Ou pire, à une terre informe et vide. Le perfectionnisme, en fait, il paralyse. Et c'est pour ça qu'une des valeurs qui nous tient à cœur ici, c'est vraiment cette audace. Pour que ça nous permette d'avancer et surtout qu'on soit libéré. Cette paralysie qui nous empêche de faire quelque chose. Parce qu'on a tellement peur que ça soit pas parfait. Et moi, je ne dis pas ça avec distance, en prêchant comme ça. Je me prêche à moi-même. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent, moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Alors, mais ça peut nous paralyser parce qu'à force de vouloir des choses qui sont bien faites ou parfaites, on peut ne rien faire du tout. Et il faut savoir être humble et puis commencer petit. Et pour parler clair et parler français, ne pas oser être humble et commencer petit, ça s'appelle de l'orgueil. Et on connaît, c'est pas un adage, mais carrément le verset de la Bible, des Proverbes 16-18, qui dit que l'orgueil précède la chute. Et l'orgueil peut non seulement nous empêcher d'avancer, mais carrément nous faire passer à côté, nous faire échouer. Parce qu'en fait, échouer, c'est pas faire de façon imparfaite, un petit peu quelque chose qui ne correspond pas, mais échouer, c'est ne pas faire, c'est n'avoir pas osé, c'est n'avoir jamais commencé. Ça, c'est échouer. C'est pas de faire un cake qui a une forme bizarre, c'est d'en avoir pas fait du tout. Et pour enfoncer le clou, le sens même du mot péché, c'est manquer le but. Donc ne pas oser, en fait, c'est manquer le but. Manquer l'audace, c'est carrément péché si on va jusqu'au bout. Et Dieu veut nous libérer de ce perfectionnisme et nous pousser de l'avant pour qu'on puisse vraiment rentrer dans ce pourquoi il t'a créé, il m'a créé. Et deuxième obstacle, comme on l'a mentionné avant, c'est un peu dans le même sens, au-delà du perfectionnisme, c'est vraiment cette peur de se tromper. Et c'est quand même un adversaire de taille. Parce que personne n'aime faire faux. Depuis tout petit, on nous apprend à ne pas faire faux. Quand on te donne ces petits plots jaunes, verts et bleus ou rouges, avec une forme de petit triangle rond et carré que tu dois mettre dans les formes de ton petit jeu, tu essayes de faire juste. Puis quand tu essayes et que ça ne va pas, on dit « Non, ce n'est pas comme ça. » Enfin, je rigole. Mais depuis tout petit à l'école, on compte nos erreurs. Quand on te rend ta dictée, on ne te disait pas « C'est bien, tu as fait 523 mots justes. » Non, tu dis, t'as fait 6 fautes. Enfin, j'espère, peut-être pas qu'ils te disent, t'as fait 6 justes, et puis 523 fautes. Bon, c'est logique de fonctionner comme ça, je suis pas là ce matin pour parler de la pédagogie et de la façon de faire, mais à force de grandir dans un système où on fait que de souligner les fautes, et souvent même en rouge, finalement, on peut être focalisé sur l'erreur. Dans notre vie, je parle pas maintenant du français, mais dans notre vie, on peut être focalisé sur l'erreur. Et finalement, se sentir évalué dans notre vie, en fonction de nos erreurs, puis pas pour qui on est. Et du coup, ça nous paralyse, parce qu'on a tellement peur de faire faux. Mais si on sait qui on est, on peut faire faux. Est-ce que ça vous parle? Et c'est tellement ambiant, et puis dans la mentalité quand même, de se focaliser, que l'accent soit mis sur l'erreur. Moi, je me souviens d'un joueur de foot qui a fait une grosse bêtise, il y a quelques années en Coupe du Monde, je ne sais plus quand c'était. À un moment donné, je pense qu'il a pété un câble, mais il a mordu un adversaire à l'épaule. Il a carrément mordu. Donc il est sorti, carton rouge, dehors. Mais depuis, il a gagné des championnats. Il a marqué je ne sais pas combien de buts. Il joue toujours, je ne vais pas dire son nom, parce qu'une de nos valeurs, c'est la culture de l'honneur. Mais aujourd'hui, quand il joue, chaque fois que les commentateurs disent quelque chose, il n'y a pas une fois où ils ne vont pas dire « Ah, c'est ça, c'est le joueur qui avait du mordant. » Ils vont chaque fois revenir quand même au fait qu'un jour, il avait mordu un adversaire. Je crois qu'il l'a même fait deux fois. Mais ils ne vont pas dire, voilà, il a gagné tant de championnats, il a fait ci. Mais ils vont focaliser sur l'erreur. Et c'est une culture du monde qui est davantage de compter les erreurs que de compter les succès. Et pourtant, parfois, se tromper, ce n'est pas la fin du monde. Et alors? Tu vas quelque part, tu te trompes de route. Et alors? Tu peux corriger, puis tu vas de l'avant. Puis des fois, l'erreur, on a tellement peur, on a tellement peur de faire une erreur, on la voit comme une telle ennemie qu'à force de l'éviter, finalement, on est paralysé, puis on ne peut ne rien faire. Et à force de ne rien faire, de peur de faire une erreur, on fait l'erreur de ne rien faire. Je vais la redire, parce qu'on ne comprend peut-être pas du premier coup. à force de rien faire, de peur de faire une erreur, ben on fait l'erreur de ne rien faire. Et c'est pire encore. Est-ce qu'on se rappelle le nombre de fois que Thomas Edison s'est trompé avant d'inventer la première ampoule et puis que ça marche? Des centaines, voire des milliers de fois. Mais au final, il a une bonne idée. L'ampoule s'est allumée. C'est le cas de le dire. Dans sa tête, et carrément la vraie ampoule aussi. Mais s'il avait peur de se tromper et qu'il n'avait jamais essayé, s'il n'avait pas essayé une mille et unième fois ou une trois millième fois, ben ici, on aurait juste des bougies. Il faut faire attention, que la cire ne coule pas. Ça serait notre défi du jour. Mais la même chose, on aime tous partir en vacances, prendre l'avion, puis aller ailleurs, même si avec le climat, l'hypertension, je ne sais pas, suivant qui. Mais combien d'essais infructueux il y a eu? Combien d'espèces d'avions qui se sont cassés la figure? Combien d'inventeurs qui ont même laissé leur vie pour qu'aujourd'hui, tu puisses faire trois clics et partir ailleurs en avion? Dans la Bible, ceux qui avaient peur de se tromper, ils n'ont peut-être même pas leur nom. C'est pour ça qu'on n'en parle pas, parce qu'ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'il est dit que des livres entiers, non. Mais un nom revient souvent, c'est celui de Pierre. Alors des boulettes, il en a fait, des sacrées. Jésus, il lui a même dit une fois « Arrière de moi, Satan !» Pour qu'il lui dise ça, c'était une sacrée boulette quand même. Mais aussi dans le jardin, quand Jésus agit envers lui, quand Pierre a fait l'erreur. Jésus qui se fait arrêter, et qu'est-ce que fait Pierre? Il dégaine son épée et il tranche l'oreille d'un soldat romain. Mais il voulait bien faire, mais il lui coupe l'oreille. Alors qu'il n'était pas censé le faire. Alors Jésus, il aurait pu lui dire, mais Pierre, je ne t'ai pas demandé de faire ça, c'est une erreur. Alors maintenant tu te débrouilles, puis t'assumes. Et puis tu fais en sorte que ça marche maintenant. Tu pries pour ce gars ou tu... Voilà, c'est toi qui vas te faire arrêter, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus de cette erreur de Pierre? Ben, il a recollé les morceaux. Dans tous les sens du terme, vu qu'il a recollé l'oreille. Mais il a tout simplement remis en place. Pierre, il a osé. Il a voulu se battre pour sauver Jésus. Il s'est investi pour la bonne cause. Mais finalement, il s'est quand même trompé. Mais est-ce que Jésus lui donne un blâme? Est-ce qu'il le disqualifie? Non, il ramasse les pots cassés avec l'oreille. Alors Pierre s'est trompé. Et alors, Jésus a quand même choisi Pierre pour bâtir l'Église. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu ne t'identifie pas en fonction de tes erreurs, mais il les répare. Dieu ne t'identifie pas en fonction de tes erreurs, mais il les répare. Mais il t'identifie comme un parent qui aime son enfant. C'est comme ça qu'il t'identifie. On a pu le chanter vraiment ce matin déjà. On est son enfant. Et c'est ça qui nous donne l'audace vraiment d'aller de l'avant. Et on va découvrir le troisième obstacle, mais avant de tout de suite le mentionner, on va ouvrir la Bible. Moi j'aime bien parce que la Bible, elle est vraiment authentique, mais dans tous les sens du terme, non seulement elle est vraie parole de Dieu, mais dedans, il y a vraiment des histoires, ça présente les gens, pas seulement comme Instagram avec les meilleurs côtés, juste de profil ou de face ou le meilleur jour, mais les personnes dans la vie de tous les jours. Par exemple, on va vous présenter Moïse, celui qui a libéré le peuple, mais on va aussi parler de son pétage de plomb, lui qui était tellement impatient que ça se passe qu'il a tué un Égyptien. Et commettre un meurtre. On vous présente David, dont on chante encore aujourd'hui les psaumes, un personnage fantastique, vraiment un adorateur, vraiment sous plein d'aspects, il était génial. Mais là aussi, l'image qu'on dépeint, elle est authentique. C'est pas juste du fake, c'est pas juste le héros parfait. La Bible nous montre David comme le gars qui a convoité la femme de son ami, la femme du chef de l'armée, qui va même coucher avec. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que personne ne le sait. Jusqu'à ce que tout à coup, il y a un problème, il y a un polichinelle dans le tiroir, comme on dit. Elle tombe enceinte. Et du coup, pour cacher ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jusqu'à tuer le mari pour cacher l'adultère. Et j'allais dire que la Bible, elle regorge d'exemples d'hommes et de femmes, comme vous et moi. Enfin, je ne pense pas forcément à ces exemples-là, je n'espère pas. Mais qui sont humains et qui commettent des erreurs, mais que Dieu utilise quand même pour faire des choses fantastiques. Et ça nous montre que Dieu a utilisé non pas juste des super-héros, mais des personnes, comme toi et moi. Mais simplement des gens qui ont eu de l'audace, c'est ça la différence. Alors moi, je ne vais pas minimiser maintenant ces erreurs, ça peut être terrible dans nos vies, ces erreurs qui ont été mentionnées. Mais ces gens-là que j'ai mentionnés, se sont laissés transformer et ne sont pas arrêtés à ces épisodes-là. Ce sont devenus vraiment des héros, des personnes qui ont eu un impact fou et qui ont été utilisées par Dieu de façon magistrale, qui ont eu une audace impressionnante. Rien que Moïse, en libérant le peuple de milliers de gens, il les a arrachés de l'emprise du pharaon. Il a allé retrouver le pharaon X fois, personne d'autorité. Puis ensuite, une fois que c'est bon, il les fait traverser un désert pendant des années alors qu'il n'y a rien à boire et à manger. Enfin, ils ont finalement eu de quoi. Mais quelle audace il a eu pour faire ça. Ou David, qui a été un héros de guerre, un adorateur hors pair, un roi fantastique, mais aussi quelle audace devant Goliath et dans tous ses combats. Dieu a utilisé tel personnage, et j'ai juste pris deux exemples, mais il y en a tellement d'autres aussi. Des gens où, à un moment donné, ils se sont levés, adroitement et même maladroitement, mais ils ont simplement répondu à l'appel de Dieu et ils ont osé. Malgré leurs erreurs de parcours, ben en fait, ils ont fait la différence. Et il y a d'autres exemples qui me parlent particulièrement aujourd'hui par rapport à ce thème d'audace, c'est dans le livre des Juges. Et c'était un contexte de guerre où Dieu a agi particulièrement, notamment grâce à des femmes, Déborah et Yaël. Des femmes qui ont eu un impact sur tout le peuple. Déborah qui s'est levée, elle avait vraiment cette sensibilité, elle entendait la voix de Dieu, un appel prophétique, mais elle n'a pas juste entendu la voix de Dieu, elle l'a pas juste noté dans son carnet de bord, ou comme moi je le fais dans mon ordinateur, mais elle s'est levée, elle a agi, elle a fait venir à elle le chef de l'armée, qui s'appelle Barak. Elle n'est pas froid aux yeux, elle fait venir, elle lui dit que c'est le moment de se lever et qu'il aille combattre. Elle lui a donné vraiment cette parole, quelle audace! Et lui, lui répond dans Juges 4:8, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » Alors il résiste un peu. Alors là, elle aurait pu continuer et dire, « Mais le Seigneur te dit que tu n'as pas à avoir peur, tu peux y aller, n'aie crainte. » Non, elle ne lui dit pas ça. Elle lui dit, « Ok, je vais partir avec toi. Je vais y aller dans le combat. Je vais me lever. » Et imaginez les zones de combat à l'époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a deux personnes qui cliquent sur l'ordinateur puis qui s'envoient des missiles depuis un bureau. C'était un peu différent. Mais remplie de courage et d'audace, elle dira dans Juges 4, 9, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera l'ennemi. » Puis ensuite, il y a 10 000 hommes qui marchent à sa suite, et Déborah qui part avec. En d'autres mots, elle dit « Je pars avec toi, mais tu sauras. Si tu gagnes, ce ne sera pas grâce à toi. C'est parce qu'une femme vient avec toi, et surtout parce que Dieu va répondre et va agir. » Si ce n'est pas l'audace de parler comme ça, c'est quand même assez fort. À l'époque, il n'y avait pas de discussion sur la place de la femme, au ministère de la femme. Elle a agi, elle dirige le chef de l'armée. Rien que moins que ça. C'est puissant. Elle va plus loin, elle donne les instructions à Barak. Un jour, elle lui dit, voilà, c'est le jour, vas-y, combat. C'est aujourd'hui le jour J. Et la victoire, ensuite, elle est totale. Barak a gagné, d'où l'expression, casser la baraque. Mais à la suite, une autre femme, Yaël, elle a aussi eu un culot, une audace incroyable. Elle fait venir l'ennemi carrément dans sa tente. Elle l'invite dans sa propre tente. Elle le transperce la tête. Et par ces femmes qui se sont levées dans un tel contexte, il est mis dans Juges 5:31 que le pays fut en paix pendant 40 ans. L'atmosphère a été changée parce que deux femmes ont eu de l'audace, se sont levées et ont eu du courage. Quel impact! Et ensuite, le peuple, il s'est laissé aller, s'est détourné de Dieu. Puis du coup, la situation est devenue mauvaise. Comme souvent, quand les gens s'éloignent de Dieu, ben voilà, tout a commencé à s'empirer. Et c'est devenu vraiment puissant. Le peuple a été dominé par les Madianites, une domination puissante, à tel point qu'il nous a dit que les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des grottes et dans des rochers fortifiés. Quelle horreur! Ils fuient tout! Ils ont peut-être laissé leur maison, qu'ils avaient construite en je ne sais pas combien de temps, leur job, leur troupeau, tout, ils ont tout laissé et ils s'enfuient dans des trous, dans des grottes, dans les montagnes. Un mode de survie, une oppression, une incertitude, ça devait être terrible à vivre. Il fallait quand même se nourrir. Alors des fois, ils sortaient de leur cachette puis ils semaient, ils espéraient que ça pousse pour récolter. Mais là, il est mis dans Juges 6, verset 3-4, que quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, ils détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Et le verset suivant, il dépeint aussi cette situation terrible, où il est dit, Juges 5, « En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et ils crièrent à l'Éternel. » C'était tellement horrible qu'à un moment donné, ils ont crié à Dieu. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un prophète qui leur a dit « Je vous ai fait sortir d'Égypte et délivré de la domination de l'oppression égyptienne. » Justement par Moïse, qu'on a parlé avant. Ce jeune gars qui ne savait pas parler au public, qui bégayait, mais à un moment donné, malgré ça, qui a osé aller de l'avant. Et là, le prophète continue dans ce temps des juges, puis il dit « Mais vous, vous êtes éloignés de moi. » Et à l'époque, il avait utilisé Moïse, mais là, à nouveau, Dieu va lever un jeune gars pour amener la libération. Et il y a un ange qui va vers un gars qui s'appelle Gédéon, qui était en plein boulot. Il est en train de battre du blé au pressoir pour vite le mettre à l'abri avant qu'il soit confisqué ou détruit par les Madianites. Et c'est à ce moment-là que l'ange va vers lui et lui dit, dans Juges 6:12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et c'est assez fou comment il réagit, parce qu'imaginez si devant vous il y a un ange, l'ange de l'Éternel, et plus tard il est même dit que c'était Dieu lui-même, cet ange, parce qu'il est dit que c'est Dieu qui lui parle. L'ange de l'Éternel, ben imaginez comment est-ce qu'on réagirait. Mais là, il reçoit la parole prophétique du siècle, et en fait Gédéon, il est authentique. Et puis qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, eh ben Dieu est avec nous, tu nous dis. Alors pourquoi il se passe tout ce qui se passe maintenant, toute cette misère? Peut-être qu'il lui a dit, on doit aller se cacher dans des rochers, dans des cavernes, dans des grottes. Et c'est le genre de réponse qu'on entend des fois aujourd'hui. Et il poursuit dans Juges 6, 13. Mais où sont, il dit à Dieu, mais où sont tes actes merveilleux, ceux que nos pères racontent quand ils disaient, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madianites. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais il est bien bon ton Dieu. Mais avec toute la misère, et puis les malades, et ci et ça. Quand on lit le Nouveau Testament, et puis qu'on voit tout ce qui se passe, on dit, mais il est où ton Dieu? On n'a pas l'impression que c'est comme ça aujourd'hui. Mais il est dit dans Juges 6, 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et c'est là qu'on voit qu'il est mis, que c'est Dieu lui-même qui lui dit, va et délivre. Et on pourrait juste dire, oui, amen, alléluia. Il aurait juste pu dire, oui Seigneur, alors je vais aller. Mais Gédéon, il va tester, il va poser des toisons, il veut être sûr que c'est le Seigneur. C'est tout un message en soi, je n'ai pas le temps de vous parler de ça ce matin. Mais il est dit plus tard, dans Juges 6, 27, qu'il a pris 10 serviteurs et ils allaient abattre les idoles. Et il est dit, toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Et là, on réalise tout à coup la vraie nature de Gédéon. Il est dit qu'il avait peur. Il a peur de sa famille. Il a peur de la famille de son père. Qu'est-ce qu'ils vont donc penser? Qu'est-ce qu'ils vont donc penser? Et pourtant, il y a Dieu qui est en personne devant lui. C'est quand même dingue. Qui lui dit, vas-y, je suis avec toi, pas de souci. Et lui, il a peur de la famille de son père. Alors il va le faire, c'est super pour lui, mais il va le faire de nuit. Personne ne voit que c'est lui qui fait ça. Et ce petit jeune qui a peur de ce que pense sa famille, ses amis, les gens du peuple, qui a Dieu en personne devant lui, qui demande toutes ses preuves, mais ce petit gars, il va quand même se lever, et toute une armée à sa suite. Alors, malgré sa peur, il a osé, et ça a payé. Et c'est là qu'on découvre vraiment ce troisième obstacle que j'ai envie de parler ce matin, c'est vraiment la crainte de ce que pensent les autres. La crainte de ce que pensent les autres, c'est un obstacle à l'audace, à oser, à commencer quelque chose. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça, si je commence ça? Qu'est-ce que mon conjoint va penser si je me lève pour prier, alors qu'il m'a vu peut-être de mauvaise humeur hier? Qu'est-ce qu'il va penser mon collègue si j'y parle du Seigneur, alors qu'il a vu ceci ou cela? Qu'est-ce que les autres vont penser? Puis qu'est-ce que ma famille qui n'est pas du tout chrétienne? Puis qu'est-ce que les autres vont penser? Et Gédéon, il a dit, mais qu'est-ce que va penser la famille de son père? Mais finalement, il a quand même osé, il s'est levé, il est allé. Et c'est un obstacle qui peut nous paralyser, ce que pensent les autres. Mais ce qui compte, c'est ce que le papa pense de toi, pour reprendre cette image qu'on a vue dans la cuisine. Et je crois que l'audace, c'est aller au-delà de ce que pensent les autres. Et c'est ça qui fait bouger les choses. Et le philosophe John Dewey a dit la chose suivante. Tout grand progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. À un moment donné, c'est quand il y a une audace, c'est quand on ose faire quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se crée, qu'il y a un mouvement qui vient. Et c'est aussi la même chose avec Dieu, c'est quand à un moment donné, il a beau nous parler, et c'est quand on ose s'élancer et commencer quelque chose, que ça a un impact. Alors Jean-Marc, tu peux venir juste pour le piano, parce que mon but ce matin, on a bientôt terminé, mais c'est pas juste de débusquer les obstacles, les obstacles de l'audace, et puis de vous dire « Allez, ose !» Et puis comme si on donne un petit coup de pied à l'aigle pour qu'enfin il ose se lancer. « Allez, osons, allez-y !» C'est pas juste ça que j'aimerais transmettre comme message ce matin. Mais j'aimerais qu'on puisse s'approcher de Dieu ensemble pour découvrir quelles sont les clés qui vont nous permettre de surmonter ces obstacles-là qu'on vient de mentionner. Et finalement, d'avoir la confiance qui nous permet de nous élancer de ce nid et de voler. Et si vous permettez, j'aimerais simplement vous transmettre pour terminer une parole du Seigneur. Parce qu'alors que je priais pour ce message, je me disais, Seigneur, mais donne-moi des pistes là, on voit ce qui nous retient d'aller de l'avant, c'est la peur de se tromper, le perfectionnisme. Et il y en a d'autres encore, je n'ai pas tout dit. Mais Seigneur, j'aimerais que tu Tu nous donnes des clés. Moi, c'est ce qui m'intéresse en général dans un message. Ce n'est pas juste de montrer ce qui ne va pas, mais la solution, c'est comment s'en sortir. Je dis, Seigneur, mais montre-moi. Montre-moi les clés pour aller au-delà, pour aller plus loin. Comment, Seigneur, on peut vaincre ça? J'ai simplement reçu une pensée du Seigneur. Et comme j'aime bien le faire quand je prends du temps avec Dieu, j'ai simplement écrit cette pensée que Dieu m'a dit, qui m'a d'ailleurs surpris. Enfin, ça n'est pas forcément dans le sens que j'aurais imaginé. Et si vous permettez, je vais simplement vous la retranscrire, comme je l'ai noté, pour rester plus fidèle simplement à ça. Vous pouvez simplement rester, s'il y en a qui veulent fermer les yeux, faites-le. Mais qu'on puisse simplement entendre cette pensée comme une pensée qui vient du Seigneur. Examinez-la, évidemment. Mais vraiment, c'est simplement cette pensée du Seigneur qui te dit, j'aimerais ce matin, non pas juste converser avec toi, mais t'amener au Père. Il est là dans cette pièce avec moi, le Fils. Il est ton papa, celui en qui tu peux avoir confiance. Je suis le Saint-Esprit, celui qui t'accompagne jour après jour. Celui qui te susurre à l'oreille des encouragements, des mises en garde, des mots qui libèrent et qui t'inspirent. Le Fils est ton Seigneur, celui qui s'est donné pour toi, qui t'a sauvé, qui t'entraîne à sa suite pour accomplir son œuvre, poursuivre ce qu'il a commencé sur terre. Le suivre, c'est oser, c'est agir, poussé par l'amour, poussé par la compassion. C'est cet amour tellement profond et tellement grand qu'il a poussé à oser, aller jusqu'au bout. Il a eu le courage et l'audace de se laisser trouver dans le jardin de Gethsémané. Il a eu l'audace de rester droit devant ses accusateurs. Il a eu le courage de se laisser aux mains de ceux qui allaient le battre, puis de monter à Golgotha, sans lever le petit doigt qui aurait arrêté tout ça. L'amour était plus grand que les peurs. L'amour était plus grand que la peur du rejet. L'amour pour toi, pour chacun, lui a permis d'aller au-delà de toute limite. Au-delà de toute limite. Et c'est véritablement cet amour-là que je désire augmenter et libérer dans vos vies ce matin. Et il va vous permettre d'aller au-delà des peurs. Si tu aimes ton prochain qui est perdu, plus que tu n'en as peur, peur de ce qu'il pourrait penser, l'audace de transmettre la vie sera plus grande que la réserve et la peur de sa réaction. Lorsque l'amour est plus grand que la peur, les barrières tombent. La crainte tombe. L'amour chasse la crainte. Et j'aimerais ce matin non seulement te parler, t'encourager, te parler du Fils et de cet amour si puissant pour le monde, mais j'aimerais t'amener au Père. C'est ton Dieu, ton Créateur, mais avant tout ton Papa. Celui qui t'aime, qui veut ton bien. Il t'aime bien plus qu'un papa aime son propre enfant. Et ce matin, je désire pas juste te dire « Ose, lance-toi », mais reçois la révélation de ce Papa qui est juste là vers toi. Si tu peux oser te lancer, c'est parce qu'il se tient les bras grands ouverts, comme un petit enfant qui s'élance du mur et qui a confiance que papa va le rattraper. De même, sois sûr de sa bonté, sois sûr de son amour pour toi. Un amour qui ne dépend pas de la performance, de la réussite, mais un amour sans condition. Un amour familial d'un papa pour son enfant, qu'il a tissé dans le creux de sa maman, qu'il a vu grandir, et qui désire le meilleur pour toi. La révélation de ce papa-là, à qui tu ne dois rien prouver, mais qui te dit, vas-y, saute du mur, élance-toi, je suis là. Ma main est toujours là pour te rattraper, et si tu trébuches, pour te relever et te faire continuer. Reçois ce matin la révélation d'un amour qui dépasse toute limite, un amour tel qui te met en sécurité, une sécurité qui te libère, il te permet de prendre des risques, d'y aller, d'oser. Une révélation avec ce papa qui te permet de te tromper, d'essayer encore et d'oser aller de l'avant. Comme un petit enfant qui apprend à faire du vélo. Ton papa est juste là derrière à tenir la selle, puis après à la lâcher. Et si tu perds l'équilibre, à empêcher que tu tombes. Et si tu tombes, à te relever, à te guérir, te dépoussiérer, à te redonner un élan nouveau. C'est ce papa-là qui te dit ce matin, vas-y, ose, lance-toi. Alléluia. Pour moi, c'est ça l'essentiel ce matin. C'est le fondement de cette valeur d'audace qu'on désire vivre. C'est pas juste se taper le torse, puis dire, allez, osons, soyons plus téméraires. Oui, alors des fois, il faut se faire un peu violence. Il faut aller à l'encontre, peut-être du perfectionnisme ou de la peur. Des fois, il faut un petit peu y aller, quoi, quand on s'élance des starting blocks. Peut-être des fois, il faut prendre autorité sur les peurs qui sont là ou se défaire de la pression du perfectionnisme. Mais plus encore que ça, c'est véritablement rencontrer Dieu, ce Saint-Esprit qui t'encourage, qui te motive, qui te coach, qui t'inspire, qui te guide. C'est rencontrer Jésus, ce Seigneur, et de se laisser toucher par ce même amour qu'il a eu, qui lui a permis d'aller jusqu'au bout, tellement il t'aimait, tellement il m'aimait, qu'il allait jusqu'au bout. Son amour et sa compassion étaient plus grands que la peur qu'il a eue. Et il a eu peur. Il avait de l'angoisse, de l'eau et du sang qui coulaient les pores de sa peau, tellement il avait peur d'aller à la croix. Mais l'amour était plus fort que ça. Et moi, c'est ce Jésus-là que j'ai envie qu'il me touche ce matin. Un amour qui est plus fort que les peurs que je peux avoir. Et ce matin, c'est aussi rencontrer Papa, ce Père qui est dans les cieux, mais qui veut s'approcher de toi pour te dire qu'avec lui, tu es dans un lieu de sécurité, qu'il est toujours là pour te guider, pour te rattraper. Alors réalise cet amour qui est tel que tu te sens aimé, pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Et ça te libère pour aller de l'avant, ça te libère pour essayer, pour oser. Et même si tu te trompes, c'est pas un expert qui te regarde, c'est un papa, c'est un papa. Et j'aimerais vous dire ce matin, c'est cet amour-là, c'est cette culture-là qu'on désire dans l'Église ici. On désire cette culture parce qu'on a un papa qui est avec nous. Et puis nous, on est les enfants de ce papa merveilleux. Et c'est un lieu où on peut se tromper. C'est un lieu où on ne va pas se juger, on ne va pas se regarder si on se trompe, si celui-là il fait bien ou pas. J'ai envie que ce soit un lieu où on peut se tromper, où on peut avoir l'audace, on peut tester, on peut essayer. Puis si on se trompe, on recommence. Et puis si ça fait mal à quelqu'un, on demande pardon, puis on continue. Tout simplement, j'ai envie qu'il y ait cette culture de l'audace, parce que c'est pas grave si on se trompe, parce que papa est avec nous, et puis on a des frères et sœurs qui nous aiment, puis on aime les autres, même s'ils font des erreurs. Et cette culture-là, c'est ça qu'on désire. Et Seigneur, on veut vraiment t'inviter ce matin, que tu sois là pour nous révéler ce cœur de ce papa, ce cœur du père, cet amour. On pourrait croire que pour terminer un message sur l'audace, il faudrait crier et se faire violence. Oui, des fois, il faut se faire violence. Mais c'est quand on découvre cet amour sans fin, cet amour qui n'a pas de limite, que ça nous permet d'oser aller de l'avant. Et je te prie, Seigneur, que cette révélation nous touche puissamment. Cet amour qui va au-delà des craintes, au-delà des peurs, puisse saisir nos cœurs. Cet amour du Papa qui nous permet d'essayer, même si le cake n'est pas fantastique, même si peut-être la première fois qu'on prie pour un malade, on s'est trompé dans notre façon de faire, ou quand on a témoigné, c'était maladroit. Mais Seigneur, on veut simplement être touché par toi, grandir, oser commencer petit. Alléluia.